Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous nous écoutez en podcast, on va parler du fossé qui ne semble pas près de se résorber entre les médias et le grand public. On posera tout à l'heure quelques questions à un sondeur d'un institut de sondage avec qui on décortiquera l'indice de confiance des Français dans les médias. Mais tout de suite, je reçois une journaliste. Elle est économiste de formation, mais journaliste indépendante. Ces deux professions pourraient, devraient, oserais-je dire, se regarder en chien de faïence vu l'état du secteur des médias, mais ils convergent dans le parcours de vie de mon invité. Bonjour Anne-Sophie Novel.
Bonjour.
Bienvenue dans l'Atelier des médias. Vous êtes journaliste indépendante, je le disais, pour Le Monde, Le 1, Public Sénat ou encore Oui Demain. Tous vos parcours professionnels, c'est autour des questions écologiques, notamment de l'écologie. Je vous reçois car vous avez publié un livre en octobre 2019 intitulé Les médias, Le Monde et nous, chez Actes Sud. Ce livre qui commence par un chapitre Genèse, un repas de famille, un réveillon de Noël 2014. Racontez-nous.
Eh bien, les noms d'oiseaux fusent et les critiques ne s'arrêtent pas vis-à-vis de la profession journalistique. Et moi qui avais toujours rêvé de faire ce métier, qui l'exerce, tant bien que mal, je suis triste. Je pique du nez dans mon assiette parce que j'ai compris depuis longtemps que c'est comme pour le foot, en fait, chacun a son opinion, son avis et qu'il est très difficile de faire bouger les positions. Et là, je me dis, c'est juste plus possible. Il est important de s'atteler à cette question. Ça va être de pire en pire. La défiance a toujours été là. Mais comment faire pour essayer de montrer qu'il y a aussi des belles choses, que tous les médias ne se valent pas?
Alors du coup, vous vous mettez à écrire un documentaire, même qui est paru avant le livre. Le titre était quasiment similaire. Les médias, le monde et moi. On vous voyait évoluer, aller à la rencontre à la fois du public. Vous avez mis un stand sur un marché pour vous mettre en scène en disant, voilà, je vends de l'information, discutons ensemble, et vous alliez également voir des journalistes différents endroits à travers le monde pour essayer de comprendre le pourquoi du comment ces relations compliquées entre le public et les médias, les journalistes. Le livre, je le disais, il est très documenté, beaucoup d'exemples, bien écrit. Il commence sur le mouvement des Gilets jaunes en novembre 2018 en France. Est-ce un moment de bascule, de rupture? C'est là-dessus que vous aviez envie de démarrer votre livre?
Oui, parce qu'en fait, on est en train de monter le film avec Flo Laval et William Roy, mon monteur, quand arrivent les premières manifestations des Gilets jaunes et ces images de ce journaliste de BFM TV sur la tête de qui on écrase un œuf, et puis plein d'autres journalistes qui se font conspuer, bousculer. Et là, ça titille un peu, quoi. Je me dis, bon, les Gilets jaunes, il y a une colère sourde qui était là, qui n'attendait que d'exploser, et je la comprends. Mais cette violence vis-à-vis de la profession, c'est-à-dire que toutes les insultes qu'on voyait auparavant en ligne sur les réseaux sociaux, là, elles sortent du cadre, elles sortent de l'écran et on tape sur les journalistes et je me dis, eh ben en fait c'est plus que symbolique, ça reflète vraiment un ras-le-bol généralisé. Et en fait, ces journalistes que l'on prend à partie sont des messagers, mais qu'on confond aujourd'hui le message, le messager. Le journaliste, on l'identifie à la marque média, et donc tout est devenu complexe. Il y a une intensification des flux d'informations, et en fait, ils sont pris à partie malgré eux, mais comme symbole de quelque chose qui ne tourne plus rond.
Et pourtant, vous rappelez que la critique, voire la défiance envers la presse et les médias est ancienne. On pourrait remonter à la Révolution française, au tout début de la presse, mais que c'est également une défiance plus globale pour les institutions au sens large, et pas seulement la presse. La presse n'en étant qu'une petite partie.
Oui, en fait, la défiance vis-à-vis de la presse a toujours existé. Et j'ai envie de dire, quand on regarde dans le long terme, elle fluctue de plus ou moins. Bon, là, elle est très basse depuis quelques années, et surtout en France. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est que par rapport à l'Église, par rapport à l'État, par rapport aux médecins, il y a une défiance généralisée à l'égard de l'ensemble des institutions. Et finalement, les médias ont toujours été très bas. Et là, maintenant, en fait, c'est un flou. Et en fait, quand on parle de post-vérité, d'air post-news, même par rapport à l'information, ça montre bien aussi qu'on est dans des sociétés de plus en plus individualistes, où chacun se fait sa propre opinion en fonction de ses propres croyances, et que du coup on ne sait plus où est la vérité, et du coup notre profession ne fait que subir aussi ce contexte généralisé de défiance, de flou par rapport à tout un ensemble d'éléments économiques et sociaux, et par rapport à des enjeux dans lesquels on est rentré là véritablement au XXIe siècle, et donc tout doit être revu. Et dans le monde de l'information, ce flou-là doit nous inviter et journaliste et public, à reposer un certain nombre de choses, quoi, tout remettre à plat.
Le truc, c'est qu'il y a une accélération de l'information avec les chaînes d'information continue dans tout ça, également les médias sociaux, notamment Facebook, avec ces flux de vidéos en direct qui vont très vite et qui permettent aussi à tout le monde d'écrire l'histoire en marche. Et le journaliste dans tout ça se retrouve n'est plus le premier rédacteur du brouillon de l'histoire, en fait.
Oui, alors on peut en effet s'équiper comme les journalistes et avoir la sensation de faire du journalisme. On a beaucoup parlé de journalisme citoyen il y a encore 20 ans, chacun pouvait le faire. Sauf que c'est pas parce qu'on a les outils du journaliste qu'on peut faire du journalisme. Et le problème, c'est qu'on a tout mis dans le même sac, c'est vraiment ce que j'explique, mais que la profession pâtit aussi d'un certain nombre de conditions de travail qui se sont dégradées, ne peut plus prendre autant de temps, avoir autant de temps d'enquête, bien faire son métier. Et donc du coup, la qualité n'est plus forcément au rendez-vous. Ça vaut pas pour tout le monde, mais pour quand même la majorité des journalistes, c'est assez compliqué. On gagne moins d'argent quand on est freelance, on a moins de sécurité. Et donc l'idée était de dire, pour que l'information puisse survivre dans de bonnes qualités, il faut qu'on puisse avoir connaissance de la dégradation de ces conditions de travail. Et beaucoup ne le savent pas, ne comprennent pas, comme dirait Olivier Goujon, que c'est une bande de crevards aussi, les journalistes, qui font tout pour bien faire leur métier, mais qui parfois abandonnent parce que c'est compliqué. Finalement, par rapport à tous les éditorialistes ou la profession que l'on stigmatise comme ça aisément, il y a aussi toute une catégorie des journalistes qui n'exercent pas dans ces conditions, pas avec les mêmes perspectives, etc. Et nous, public, on peut aussi maintenant émettre de l'information, et ça a du bon comme ça a du moins bon. Et donc, à quel endroit peut-on se rencontrer pour essayer ensemble d'améliorer la qualité, en fait? Il faut faire avec ce contexte-là. On ne va pas dire, toi, t'es journaliste, t'es pas journaliste. Je veux dire, là-dessus, je trouve qu'il y a des professionnels amateurs et de très belles choses qui ont émergé avec les réseaux sociaux. Et heureusement, ça a poussé la profession aussi à s'interroger. Mais à quel endroit peut-on se rencontrer pour faire de l'information différemment?
Vous essayez justement dans votre livre de vous mettre un petit peu des deux côtés, avec votre casquette de journaliste, mais en même temps de consommatrice d'information. Pour qui avez-vous écrit ce livre au final?
En fait, c'est le « et nous ». Voilà, le film, c'était « et moi », parce que c'était un périple, on me suivait et je voulais que les gens s'interrogent sur leur propre consommation d'informations. Là, le « et nous », c'est le « nous » journalistique, comme le « nous » de la population. Et je pense qu'il n'y a pas de piédestal à avoir quand on est journaliste, à surplomber le monde tel qu'on le perçoit. C'était juste remettre tout le monde un petit peu d'égal à égal et dire finalement, on fait partie du même monde. Et c'est ce que j'explique, c'est-à-dire qu'on a tendance à mettre tous les médias dans le même sac. Après, j'explique qu'en fait, on est tous dans la même galère en tant que journaliste, qu'on fait partie du même monde et que du coup, il est peut-être important qu'on se pose les vraies bonnes questions. Donc, les lecteurs, jusqu'à maintenant, me disent, en fait, j'ai découvert des conditions de travail que j'ignorais vraiment sur votre profession de journaliste. Certaines m'ont dit, tu nous rends intelligente, on est curieuse, et on s'est rendu compte qu'on était emprisonnés dans notre vision de l'information. Et ça, c'est très touchant quand les gens disent ça, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de témoignages de gens qui m'ont dit, on est fatigué, on a décroché, on n'a plus envie, on ne peut plus faire d'efforts, on est perdu. Et avec ce film et le livre, quand on prend le temps de le lire, en fait, on a un monde qui se révèle sous nos yeux. C'est un peu la bonne face cachée des médias qui apparaît et on se dit, en fait, je peux me réapproprier. Donc, ce soit sur tout un tas de médias que les gens méconnaissent, d'émissions qui sont méconnues dans des chaînes pourtant détenues par des actionnaires qu'on pourrait critiquer parce que, on sait très bien à quel point ça peut avoir de l'influence et à quel point c'est décrié en France. Mais voilà, en tout cas, c'était cette démarche de réconciliation. Et j'ai plein de journalistes qui me disent, j'ai appris des choses et puis en fait, merci parce qu'en fait ça met des mots sur quelque chose qu'on ressent aussi et sur notre désir de faire évoluer notre métier. Donc c'est un petit peu au carrefour des deux, mais pour expliquer que cette problématique de l'accès à l'information, plus fondamentalement, a un impact par rapport à notre façon de faire société. Notre façon d'avoir des outils de démocratie, de débat, de conversation et de choix. Je voulais aussi dépasser un peu la critique radicale des médias. Je pense que c'est important, mais que ça ne suffit pas. Que c'est une posture qui peut être confortable par certains aspects, mais aller plus loin que la critique et dire, maintenant tout ça on sait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Comment est-ce qu'on peut revoir notre rapport à l'information? Et c'était essayer de lancer des pistes de réflexion, sachant que je n'ai pas de réponse, que je donne à le le fais à personne, mais que j'ai encore beaucoup de questions à poser.
Mais il y a des pistes de solutions, on y reviendra tout à l'heure. Dans votre livre, Anne-Sophie Novel, vous avez disséqué le rapport des Français à l'information et vous vous appuyez notamment sur une enquête d'opinion annuelle qui fait en quelque sorte autorité. C'est le baromètre de confiance dans les médias. Et bien, on va appeler une des personnes qui est derrière ce baromètre, c'est Guillaume Caline.
Allô ?
Bonjour Guillaume Caline.
Bonjour.
Vous travaillez chez Kantar et votre institut a réalisé, comme chaque année pour le journal français La Croix, le baromètre de confiance dans les médias. Le dernier en date vient tout juste de sortir. Le premier constat, c'est que seuls 59% des Français disent s'intéresser à l'information. C'est le plus bas niveau depuis 1987. Le désintérêt est flagrant. Quelles sont, Guillaume Caline, les catégories de personnes les plus désintéressées dans l'information?
Effectivement, ce désintérêt, cette baisse de l'intérêt des Français pour l'actualité est assez préoccupante. On note une baisse de 8 points seulement en un an. L'an dernier, on avait observé un petit regain d'intérêt au moment des Gilets jaunes. Mais là, on voit qu'effectivement, on enregistre le plus bas niveau depuis 30 ans. Les personnes qui se désintéressent le plus de l'actualité, qui sont les plus éloignées des médias, ce sont d'une part les femmes, les plus jeunes et les moins diplômés, les employés, les ouvriers. C'est quelque chose qu'on constate depuis toujours. Cette différence de catégorie sur l'intérêt pour les médias, mais disons que là, ça se renforce dans ce contexte de baisse de l'intérêt des Français pour l'actu.
Et ces catégories de personnes que vous venez de citer, c'est à chaque fois de l'ordre d'une personne sur deux pour lequel le désintérêt est flagrant.
Effectivement, c'est la moitié de ces catégories-là qui nous disent ne pas s'intéresser, enfin suivre l'actualité avec un faible intérêt.
On a l'impression pourtant que l'actualité est partout, notamment dans les fils d'actualité sur Facebook. Et ce qui ressort de votre enquête cette année, c'est que les médias traditionnels sont de moins en moins des références en matière d'information pour le grand public.
Effectivement, les médias traditionnels enregistrent une baisse de la confiance qui leur est accordée. Ça fait 30 ans qu'on pose aux Français la question de savoir s'ils ont le sentiment que, en ce qui concerne l'actualité, les choses se sont passées à peu près comme la télévision, la radio, la presse écrite ou Internet le racontent. Et pour chacun de ces médias, on enregistre cette année au mieux une stabilité ou une légère baisse pour certains médias. Par exemple, on a 50% des Français qui estiment que les choses se sont passées comme la radio les raconte, 46% pour la presse écrite, 40% pour la télévision et seulement 23% pour Internet. Les résultats sont globalement plutôt stables par rapport à l'an dernier, mais ce qui est marquant, c'est que sur 30 ans, on est à des niveaux qui sont historiquement bas de confiance accordée par les Français aux différents médias.
Ce que l'on note aussi, c'est le fossé entre les générations quant au support utilisé pour s'informer et donc aux sources d'informations disponibles. La radio FM, broadcast et la presse écrite continuent de plonger. La télévision est citée par un Français sur deux et le numérique par un Français sur trois comme source d'information principale.
Effectivement, quand on demande aux Français de quels moyens ils sont informés, non pas forcément comment ils s'informent, mais plutôt qu'ils sont informés, 48% citent la télévision. C'est une baisse constante. Depuis 5 ans, mais ça reste quand même le média principal, la principale source d'accès à l'information pour les Français, suivi ensuite par Internet. Ce n'est pas que les Français ne s'informent pas par la radio ou par la presse écrite, mais c'est pas du tout le moyen privilégié. Et ce qui est notable, effectivement, c'est la différence en fonction de l'âge. Chez les moins de 35 ans, Internet est de manière vraiment privilégiée, le moyen d'accès à l'information bien devant la télévision. Alors chez les plus de 35 ans, c'est l'inverse qu'on observe avec la télévision qui reste le média privilégié.
Oui, justement, derrière ces chiffres, de grosses disparités selon les âges. 65% des plus de 65 ans citent la télévision contre seulement 18% des 18-24 ans. J'aimerais qu'on parle maintenant des infox. Et pour repérer les infox, 38% des Français comptent sur les journalistes. Faut-il se réjouir de ce chiffre ?
Ce que notre baromètre révèle depuis plusieurs années, c'est d'une part, et ce qui est assez marquant, le fait qu'une part importante des Français disent être confrontés au moins une fois par semaine à des fausses nouvelles ou des nouvelles qui déforment la réalité. C'est le cas de 40% des Français au moins une fois par semaine, et c'est particulièrement le cas chez les plus jeunes et chez les plus connectés. Et face à ce mouvement-là, effectivement, les journalistes arrivent comme les acteurs qui sont perçus comme les plus attendus pour agir hein, pour 38% des Français, mais c'est pas les seuls acteurs et 38% c'est pas non plus un chiffre extrêmement élevé. Ça veut dire que la confiance dans les journalistes reste assez fragile, y compris pour décoder les fake news.
J'ai aussi noté que 71% des Français n'ont pas le sentiment que les médias rendent mieux et davantage compte de leurs préoccupations. Est-ce à dire que les efforts qu'auraient pu accomplir certaines rédactions françaises sont, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes par exemple, sont imperceptibles pour le Français lambda ?
Effectivement, c'est une question qu'on se posait avec le baromètre Lacroix, savoir si les Français avaient été sensibles aux efforts hein, qui ont été accomplis par de nombreuses rédactions, de nombreux journaux, de remise en cause de certaines de leurs pratiques suite au mouvement des Gilets jaunes. Et on a posé la question aux Français, est-ce qu'ils ont le sentiment qu'il y a eu un changement, que les médias prennent davantage et mieux en compte la vie des Français, leurs préoccupations ? Promettre montre que c'est plutôt majoritairement négatif. Hein, 71% des Français n'ont pas ce sentiment-là. Alors après, on peut voir soit le verre à moitié vide, en se disant que ou trois quarts vide, en se disant que la situation effectivement est compliquée et qu'il y a encore loin pour combler ce fossé entre les médias et les Français. Mais on peut aussi voir un petit signe d'espoir sur ces 26% des Français qui notent quand même. Et parmi ces 26%, on observe surtout les personnes qui s'informent le plus, qui sont les plus informés sur l'actualité, ces 26% qui saluent un certain effort des médias. Et c'est quelque chose qu'il faudra suivre hein, dans le temps, parce que voilà, entre les efforts qui sont accomplis et le fait de les ressentir pour les Français, il peut y avoir vraiment un certain temps.
Et alors justement, quelles sont les pistes de solutions pour les médias et donc de réflexion pour les journalistes et évidemment les patrons de presse qui sont derrière ?
Pistes de solutions, c'est pas forcément moi qui pourrais les trouver, mais le baromètre, en tout cas, permet de nous donner quelques idées. Et puis, ce qu'on peut voir aussi dans les critiques qui sont formulées par les Français à l'égard des médias, on voit que chez les Français, il y a à l'égard des médias quand même un besoin, une volonté aussi d'éclairage et d'aide justement à se repérer dans une société où on a de plus en plus difficile aussi parfois de hiérarchiser, de décrypter tout ce qui apparaît, tout ce qui transforme la société. Notre baromètre, il montre que sur certains sujets, on voit que les Français ont le sentiment qu'on n'en a pas assez parlé et ces sujets sont assez révélateurs. Chaque année, dans notre baromètre, on sélectionne une vingtaine d'événements emblématiques de l'année et on demande aux Français s'ils ont le sentiment que les médias en ont trop parlé, pas assez parlé ou qu'ils en ont parlé comme il faut. Et dans les sujets dont les Français jugent qu'on n'en a pas assez parlé cette année, on retrouve en premier les importants feux de forêt qui ont eu lieu l'été dernier en Californie, en Sibérie, en Amazonie, où notamment les plus jeunes ont vraiment le sentiment qu'on n'en a pas assez parlé. Et on retrouve ensuite des sujets assez politiques finalement, le Grenelle sur les violences conjugales, les élections européennes, la réforme des retraites et les débats sur la PMA. Donc c'est des éléments qui sont assez finalement rassurants, ça montre que les Français se désintéressent pas de ce qui se passe en France. Et quand on voit le moindre intérêt pour l'actualité, c'est plutôt le moindre intérêt pour l'actualité de la manière dont elle est traitée aujourd'hui, avec l'attente des Français sans doute de prendre davantage en compte et de mieux traiter les sujets qui les préoccupent le plus.
Merci beaucoup Guillaume Caline. Je rappelle que la 33e édition du baromètre de confiance dans les médias est parue dans La Croix du jeudi 16 janvier. C'était réalisé donc par l'Institut Kantar. À bientôt Guillaume Caline.
Merci, à bientôt.
atelier@rfi.fr
Anne-Sophie Novelle est toujours avec moi dans le studio de l'atelier des médias de RFI. Anne-Sophie, ce que vous venez d'entendre confirme ce que vous avez vu sur le terrain et ce que vous rapportez dans votre livre « Les médias, le monde et nous ».
Oui, je pense que ça ne fait que refléter une fois encore cette fatigue informationnelle. Le désintérêt par rapport à l'information, moi, m'interroge sur un aspect qui serait plus qu'est-ce que l'information aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend par actualité. Je ne suis pas sûre que le baromètre de la Croix ait le temps chaque année d'aller dans ces dimensions qualitatives, même s'il est effectué sous forme d'entretien. Et moi, c'est ça que j'interroge, en fait. Quand on parle aujourd'hui de la crise médiatique, comme on en parle depuis longtemps, on se focalise souvent sur les aspects économiques, technologique, l'évolution des usages. Moi, j'ai envie d'aller creuser un petit peu sur qu'est-ce qu'on propose comme information, qu'est-ce qui fatigue, qu'est-ce qu'on pourrait faire de manière aussi éditoriale. Alors, le baromètre, il va un petit peu justement en interrogeant les sujets qui, dans l'année, ont été trop traités ou pas assez traités. C'est un début de réponse, mais je pense que c'est ce travail-là qu'il faut faire. Et donc, suite à tout ce qu'on a pu observer en 2019, c'est vrai que Il y a beaucoup de rédactions qui ont commencé à retrouver le terrain, à retrouver le public. Je pense à La Voix du Nord, à La Montagne, à Nice Matin, mais le journal La Croix l'a fait aussi, France Info l'a fait également, à se dire, bon, ben, on a entendu ce désamour, cette colère, et en fait, on a envie de vraiment comprendre, quoi. On s'est pris un coup de massue sur la tête, donc il est peut-être temps qu'on essaye de voir comment mieux répondre à l'attente et évoluer dans ce monde où, en effet, plus personne ne sait qu'est-ce qu'une bonne information, qu'est-ce que c'est qu'une fake, une désinformation, une mésinformation. Il y a plein de nuances dans tout ça.
Voilà, c'est ça. Parlons maintenant justement des solutions. Ce que vous expliquez, c'est que du côté des médias et des journalistes, l'idée, c'est de trouver des solutions éditoriales, avant même des solutions techniques, parce qu'on parle toujours de la diffusion de l'information, mais c'est déjà une question de posture journalistique. Comment le journaliste positionne-t-il par rapport à son sujet et par rapport à la façon dont il raconte le sujet auprès du grand public? Parce que le savoir-faire journalistique, il est là, vous le dites, les journalistes sont de mieux en mieux formés, mais les postures doivent changer, et vous dites qu'il faut retrouver les faits, retrouver le temps, retrouver le public, retrouver du sens, retrouver un cadre. Bon, on pourrait s'arrêter sur chacun de ces faits-là, donc retrouver les faits, l'enquête, le fact-checking par exemple. Retrouver le temps. Le temps, c'est quelque chose de fondamental. C'est vrai que les journalistes parlent souvent de la liberté de ton, mais pas suffisamment de la liberté de temps, alors que la plupart des réponses des journalistes, ce sera « je n'ai pas le temps ».
Oui, j'ai pas le temps, parce que dans des rédactions où on nous demande de tout faire, hein, on a longtemps parlé des journalistes Shiva ou de ces rédactions où tout le monde était derrière le desk, un peu comme les poulets en batterie. Bah, on n'a plus le temps de retourner sur le terrain, on n'a plus le temps de faire une investigation comme les fondamentaux du journalisme le veulent, etc. Donc, on a pâti de ces conditions de travail. Donc, c'est une des premières pistes que de se dire, je renoue avec une façon de bien faire mon travail, du coup, d'avoir du temps pour vérifier les faits, pour aller interroger, les personnes nécessaires pour bien, voilà, pour pas faire que du copier-coller, parce que c'est ce qui a aussi été montré par des travaux tels que ceux menés par l'économiste Julia Cagé. Et donc ça, c'est une clé fondamentale. Mais le temps, c'est aussi le temps que le public doit retrouver pour bien s'informer. Parce que, de fait, on peut avoir de l'information continue qui donne une certaine vision des choses, mais il faut aussi prendre le temps pour aller écouter un podcast qui va creuser un sujet, ouvrir un magazine papier ou quelque chose qui a été mis en ligne sous forme vidéo ou autre qui permet de manière interactive d'aller creuser quelque chose. Enfin voilà, ce temps-là, il est de part et d'autre.
On va revenir là-dessus sur les solutions que le public et le travail que le public a à faire sur lui-même. Juste sur la question des journalistes, de ces journalistes et de leur positionnement. On dit parfois que les journalistes devraient sortir de leur tour d'ivoire, aller vers les gens. Il y a également un problème qui est pointé du doigt très régulièrement par le grand public. C'est l'origine sociale et géographique des journalistes, justement, qu'on est dans une reproduction. Faut-il aussi que les rédactions s'ouvrent davantage à des profils différents pour penser différemment?
Oui, ça c'est un peu un sujet qui revient très régulièrement sur le dessus de la table, le manque de diversité, de représentativité des différentes classes sociales dans la profession journalistique. Donc il y a pas mal de rapports qui en font état. Je crois qu'il y a certaines écoles qui essayent de s'ouvrir également, donc ça commence à changer doucement. C'est aussi des choses qu'on retrouve parfois dans le traitement éditorial de certains sujets. C'est vrai que dans le livre, par exemple, je m'attarde sur cette question des mots qu'on utilise, de la sémantique utilisée pour parler de certains sujets, de la façon dont faire évoluer ne serait-ce que le vocabulaire employé permet de donner un autre ton au reportage et au traitement de certaines questions. Certaines rédactions sont de plus en plus sensibles, par exemple, à la façon de traiter les hommes et les femmes et de représenter les femmes plus majoritairement dans les médias. Enfin, voilà, tout ça, c'est en train de changer peu à peu, et heureusement, mais ça reste encore des signaux faibles. Mais en effet, ça participe. Après, je pense que tout le monde peut aujourd'hui s'exprimer aussi, et c'est ça la richesse qui fait que les réseaux sociaux sont aussi des éléments qui peuvent un peu être un poil à gratter pour la profession.
Alors le public a un rôle à jouer. Vous, auditeurs qui nous écoutez, vous devez également travailler sur la façon dont vous consommez l'information. Faire un point sur les médias que vous consultez quotidiennement, les différents types de supports, affiner votre sens critique également, s'outiller. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire, à affirmer sur l'éducation aux médias et pas seulement à l'école primaire ?
Oui, pas seulement à l'école primaire. On l'a vu, par exemple, sur la viralité des fake news, des fausses informations. On s'est aperçu que c'est pas forcément les plus jeunes qui les diffusent, c'est souvent des personnes plus âgées. On parle en effet beaucoup d'éducation aux médias, mais pour moi, il est important de parler de quelque chose de plus fondamental, qui est celle de la littératie. C'est un peu l'ABC des aptitudes qu'on peut avoir pour se mouvoir dans un univers numérique, dans un univers d'information. C'est-à-dire, comment est-on équipé pour vérifier une information? Quels sont les réflexes que l'on a acquis ou qui peuvent nous être enseignés pour justement avoir un peu d'autonomie là-dedans? Bien souvent, alors les gens qui font l'éducation aux médias font un très beau travail, je ne néglige pas du tout ce qu'ils font, mais est-ce que ça suffit d'apprendre à faire un journal pour que les élèves comprennent comment ça se fait? C'est une chose, et les chiffres prouvent que ça change la posture justement des jeunes qui apprennent, parce que du coup ils ont un autre regard sur les choses, mais il y a des travaux qui prouvent que c'est pas parce qu'on a suivi ces formations qu'on ne va pas faire une recherche sur Internet qui va valider des croyances que l'on a déjà. Donc en fait, pour moi, c'est surtout la littératie, une façon de développer une pleine conscience de ce qu'on est en train de se mettre dans la tête. C'est-à-dire, je lis tel journal, j'ai conscience qu'il appartient plutôt à tel bord, ou que ce journaliste, voilà. Et du coup, par la suite, se débrouiller pour pouvoir vérifier par soi-même l'information, pour pouvoir avoir du recul, pour aller confronter avec une opinion différente.
En annexe de votre livre, vous proposez un régime informationnel, car vous l'écrivez, bien s'informer devient aussi important que bien manger. Il faut savoir aussi digérer toute cette information. Et vous proposez donc ce régime sur 21 jours. 5 jours de détox, une reprise par un jour de radio, un jour de podcast, un jour de presse, un jour d'actu en ligne. Pourquoi ?
En fait, c'est une idée qui m'est venue à la toute fin de la rédaction de l'ouvrage, parce qu'à force de filer cette métaphore sur l'alimentation et l'information, parce que j'arrête pas de dire que bien s'informer, c'est comme bien manger, je me suis dit, je vais pousser le régime, en fait, cette fois-ci. Et ce qui est drôle, c'est que tout le monde réagit à ce régime, alors que je le faisais un peu en mode... Voilà, mais en fait, c'est un vrai exercice à faire, parce que je commence par une détox de 5 jours, et il y a des gens qui disent, je m'informe plus, c'est-à-dire alors qu'on est toujours informé, il y a toujours quelqu'un dans son entourage qui informe, on entend toujours les choses les plus importantes, l'information vient à nous. Donc c'est une façon d'interroger sur c'est quoi l'information en fait. Déjà partons de ce premier point de vue-là, de cette première question, et ensuite réintroduisons de manière parcellaire, et voyez comment vous vous sentez par rapport à ça. Le ressenti est très important. Parfois, on part juste d'un ressenti pour exprimer une colère ou une émotion qui n'est pas forcément justifiée, mais le ressenti, lui, il est vrai, quel qu'il soit. Et c'est une façon de dire, après, vous pourrez composer un petit peu votre hygiène informationnelle et reprendre la main et comprendre qu'il y a des journalistes qui font bien leur travail, qui font des contenus qui peuvent être éclairants, qui peuvent vous aider au quotidien. Mais là-dessus, je suis assez lucide. C'est-à-dire que mon rêve... Et j'essaie d'y travailler, ça serait de pouvoir créer une dynamique, un mouvement comme Slow Food l'a fait par rapport à l'alimentation. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, Slow Food s'est lancé en disant il faut défendre une alimentation bonne, propre et juste, où consommateurs et producteurs se retrouvent autour de bons produits et on peut renouer un lien de confiance, alors que c'était l'ère de développement McDo à outrance, de la junk food, etc. Et je pense que là, ça fait quelques années qu'on a pris conscience qu'on était soumis à de la fast news, à la junk news, c'est-à-dire à des flux d'informations qu'on ne sait plus regarder ou qu'on consomme sans savoir ce qu'on est en train de se mettre dans la tête, ou avec beaucoup de doutes, beaucoup de problèmes de crédibilité. Et donc je pense qu'on a 30 ans devant nous pour essayer de faire ce travail. C'est-à-dire que, et la profession d'évoluer, de montrer qu'il y a des belles choses qui se font malgré tout, et qu'on peut avoir des erreurs, mais l'erreur est humaine, mais que souvent il y a aussi beaucoup de choses qui des investigations qui, en fait, en termes d'intérêt général et même de bénéfices pour la société, sont prouvées, mais que le public doit aussi reprendre cette main-là. Donc je ne crois pas que ce soit juste aux citoyens de faire attention, on sait trop bien que ce n'est pas la seule solution, mais pour rapprocher ces deux pans de la société, il faut vraiment entamer ce travail et ça va prendre du temps. Et ça, j'en suis vraiment convaincue, mais c'est un petit peu mon rêve.
Alors vous dites qu'on a 30 ans devant nous, au final, c'est beaucoup. Pour le climat, on a moins que ça.
Oui, pour le climat, on a moins que ça. Alors, c'est le vrai, le climat, l'écologie est un sujet dont je parle beaucoup. Non, je pense qu'on a à peine 10 ans pour réagir.
Voilà, vous félicitez justement que dans les rédactions, les questions d'environnement, de climat, là, avancent. Et enfin, que ça y est, les journalistes s'en sont saisis. Et les rédactions s'en sont saisis.
Ils s'en sont saisis pour plusieurs raisons. C'est parce qu'on a eu un événement médiatique, une démission d'un ministre en temps réel.
Nicolas Hulot.
Exactement. On a des manifestations de jeunes, des marches qui, depuis 2014, commencent à être très massives. On a une urgence dans la actualité, de feux de forêt, d'inondations, de catastrophes naturelles qui sont en train de s'accroître à un rythme intense, et donc des alertes qu'on ne peut plus ignorer. Mais du coup, c'est vrai que l'écologie est en train de restructurer le débat public, ça, on pourrait faire une émission entière là-dessus, c'est-à-dire que la société va plus se diviser sur un axe droite-gauche, mais va se diviser sur des gens qui croient ont besoin de défendre une société différente avec justement les valeurs écologiques qui sont mises au centre, voilà, en disant ben, on doit changer de modèle pour éviter d'aller dans le mur, et d'autres qui sont juste dans une négation de tout ça, à croire que la technologie pourra encore nous sauver. Donc c'est une simplification du propos, mais grosso modo, les médias dans tout ça ont un rôle à faire. Et c'est-à-dire que quand je parle de postures différentes, souvent le journaliste se dit, moi je dois juste parler de l'actualité, me mettre dans un temps présent. Je pense que le changement de posture doit aussi être de dire, mais dans les temps que nous sommes en train de vivre, le futur est de plus en plus incertain. Si je suis payé pour avoir du temps pour investiguer, alors que l'actualité est partout, peut-être que je peux utiliser ce temps-là pour faire un peu plus de prospective et éclairer les gens sur ce qui peut advenir. Mais ça ne veut pas dire que, voilà, mais c'est une forme d'engagement et d'un pacte de confiance qu'on peut renouer pour dire, bah, je vais essayer de vous éclairer tant que possible sur ce que les experts ou les gens qui réfléchissent à ces sujets disent. Et je pense que c'est une façon d'apporter des réponses aussi, et tout le monde ne peut pas faire ce travail-là.
Les Assises internationales du journalisme début avril à Tours en France seront consacrées justement à l'urgence climatique, et nous y serons pour l'atelier des médias de RFI. Merci beaucoup Anne-Sophie Novelle.
Merci.
Je rappelle votre livre Les médias, le monde et nous, qui est paru chez Actes Sud, et je vous souhaite bonne suite dans vos nombreux projets.
Merci.
À bientôt. C'est bientôt la fin de cette émission. Place à Mondoblog Audio, qui prolonge nos échanges sur la confiance dans les médias avec le regard sénégalais de la mondoblogueuse Aminata Thior.
Aujourd'hui au Sénégal, le lecteur a totalement perdu confiance dans la presse. Il est en demande d'un nouveau genre de journalisme. Celui qui traitera de sujets d'intérêt public de manière approfondie et vérifiée. Celui qui mettra le nez dans les affaires qui gangrènent le pays. Un genre qui s'apparenterait à du journalisme d'investigation à la Mediapart. Au lieu de quoi, on nous sert du buzz à tout va. Avec la prolifération des sites d'information en ligne, écrire pour faire du buzz est comme un mot d'ordre partagé entre les différents acteurs de cette presse qui n'en a que le nom. Mais à quoi servirait un journalisme d'enquête si ensuite aucune mesure n'est prise pour remédier aux problèmes soulevés, ou si aucune sanction n'est appliquée aux responsables d'un scandale? Nos responsables politiques appliquent la loi du silence pour enterrer les affaires, et notre système judiciaire n'est pas indépendant. Et nous, lecteurs et citoyens, sommes trop passifs et peu exigeants envers ceux qui nous dirigent et envers ceux qui nous informent. L'autre point qui freine toute création d'un Mediapart sénégalais, c'est la plainte pour diffamation que reçoivent régulièrement les journalistes. L'histoire montre que dès qu'un papier sensible accuse un membre du pouvoir, le journaliste concerné est arrêté pour diffamation. N'y a-t-il pas meilleur moyen de dissuasion à l'investigation au Sénégal? Et les lecteurs ou citoyens dans tout ça? Nous n'arrêtons pas de réclamer une information vérifiée et juste. Mais dès qu'il s'agit de sanctionner, nous oublions la raison et faisons appel à l'émotion. Et c'est reparti pour du buzz.
Sénégal, est-on prêt pour du journalisme d'investigation? C'est un article que vous pouvez retrouver sur le blog Le Regard de Minatag, d'Aminata Thior, et sur mondoblog.org. C'est ainsi que se termine cette émission. Simon Decreuse était comme chaque semaine à la réalisation. Camille Deloche a orchestré Mondoblog Audio. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio. On recevra l'une des deux rédactrices en chef de la revue française de reportage 21, qui fête ses 12 ans d'existence et sort une nouvelle formule. D'ici là, vous pouvez retrouver en podcast l'atelier des médias.